Écoute,
Cité Sco.
L'émission produite dans la cité scolaire du Diwa.
Avec les ateliers radio du jeudi.
Sur RDIWA 107.5 FM.
Et internet www.rdiwa.fr.
Bonjour, je m'appelle Charlie Tollard, vous êtes sur RDIWA. Donc je suis à la cité scolaire et j'ai avec moi Valentin, Erwan et Megan. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter en quelques mots, chacun ?
Bonjour, moi c'est Valentin et je suis en terminale S. Et on a créé une association pour sonoriser les soirées et construire un sound system.
Donc moi c'est Erwan, je suis en première, j'ai redoublé. Et avec Valentin et Megan, comme il a dit, on a créé notre association pour pouvoir s'amuser et amuser les gens.
Donc salut, moi c'est Megan, je suis en terminale L à Die, et donc voilà, je suis aussi partie de l'association Wireless Sound System.
Donc votre projet, si j'ai bien compris, c'est vous voulez faire un sound system, c'est ça ?
C'est ça.
Mais c'est quoi un sound system ?
Eh bien, donc un sound system, c'est un système de sonorisation, donc en gros, tout le matériel qui permet de faire marcher des enceintes de haute puissance. Donc ça sert à sonoriser des soirées, que ce soit des festivals ou juste des soirées privées comme un mariage, un anniversaire ou peu importe.
Vous faites ça pour quelque chose de précis ou juste comme ça ?
Ça peut être pour tout type de soirée en fait, on n'a pas de festival prévu ou quoi spécialement, mais on peut faire des mariages, des anniversaires, des festivals dehors, voilà.
Voilà, après si on fait ça c'est pour réunir les gens et aussi parce que nous on aime bien tout ce qui est musique, son, tout ça, donc vu que c'est un peu quelque chose qu'on a en commun tous les trois, on s'est dit pourquoi pas réunir les gens autour de ça.
L'association c'est juste vous trois ou il y a d'autres personnes ?
Je ne vois.
Vous faites un groupe de musique ou vous faites juste les enceintes ?
Pas du tout, on fait vraiment que les enceintes pour l'instant, après plus tard on verra, mais c'est pas du tout prévu. Qu'on fasse de la musique, juste on passe la musique.
Voilà, on a des artistes qu'on adore et tout ça, et du coup on passe des musiques qu'on aime sur des grosses enceintes pour écouter, pour avoir un son excellent.
Comme style de musique, c'est quoi votre favori que vous allez le plus passer ?
Donc nous, notre style principal, c'est le dub. Ça reste le dub. Après, on est ouvert pour passer un peu tous les styles de musique. Tant que ça réunit des gens et que les gens prendront du plaisir à danser devant nos caissons, nous ça nous fera plaisir.
Après ça dépend de la soirée où on est, par exemple si on a une soirée que nous on organise, on passera plus des musiques à nous qu'on adore et tout ça, mais si c'est une soirée où on est invité ou enfin où on peut être par exemple payé pour venir à cette soirée, là on s'occupera juste de gérer le son mais on passera pas de notre musique. Enfin, ça dépendra de celui.
Tout dépend de la demande en fait de la personne qui va nous demander. S'il nous demande d'organiser une soirée et de passer notre musique, il sera prévenu de la musique qu'on prévoit de passer. Ou alors, il peut demander à ce qu'on passe ses musiques.
Il peut nous faire une playlist.
Voilà, ou en gros, on va juste passer sa playlist et faire en sorte que, au niveau sonore, la soirée se passe sans problème.
Vous avez déjà des festivals ou des soirées déjà prévues ?
En effet, on a, en premier, on a peut-être le loto des écoles à Châtillon. Et le 2 février, on est invité au Psycho by Dub Hiver, le Winter Bass, pour mettre du son dehors et ambiancer les gens à la file d'attente, par exemple. Donc ça sera au Théâtre de Die le 2 février. Et ça commence à quelle heure ? 18h.
Les sonos, c'est juste vous qui programmez les musiques qu'il y a ou ça peut être n'importe qui le fait ?
Dans un premier temps, je pense que ça sera nous. Après, on peut demander, par exemple, si quelqu'un vient nous demander pour passer une musique, on peut la mettre. Mais ça sera sûrement nous ou des amis qui allons mettre la musique. Donc, on peut proposer les enceintes à un groupe de musique ou à des DJ. Et nous, on sera derrière le son pour le gérer, pour la puissance... mais après c'est l'artiste ou c'est le groupe qui fera leur musique pour passer sur les enceintes.
Et est-ce qu'il y a des événements que vous organisez, vous, ou...
Eh ben, pas encore, mais ça ne saurait tarder.
Non, pour l'instant, on peut pas, on n'a pas trop l'occasion, mais on est invité à deux, trois trucs, des petites fêtes ou des anniversaires. On va voir ce qu'on peut faire, mais pour l'instant, pas d'événements prévus de notre part.
Alors, l'association, c'est juste vous trois points ou il y en a d'autres qui peuvent vous rejoindre?
Pour l'instant, vu qu'on l'a démarré, on commence. Du coup, on va rester à trois, peut-être pas pendant longtemps, hein, mais pour l'instant, on essaye de rester à trois pour bien évoluer. Mais après, pour encore plus évoluer dans le son, tout ça, on pourrait accueillir des gens.
Voilà, faut savoir que notre association, vraiment, elle date de fin de l'année dernière, fin octobre ou début novembre, je sais plus vraiment. Donc pour l'instant, on reste à trois, histoire de bien se poser, de faire les choses clairement, que ce soit pas quelque chose où il y ait trop de personnes, ça reste entre nous. Mais après, plus tard, qui sait, peut-être qu'on grossira et qu'on fera une association, pourra s'agrandir avec plus de personnes, plus de matériel, plus de moyens, plus d'événements, et ce serait super.
Votre objectif, c'est d'augmenter le son des soirées ou alors c'est de faire plus de soirées?
Ah bah après, si on peut agrandir le son au maximum, on est pour forcément, c'est juste les moyens qui sont pas forcément toujours là. Mais après, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on veut proposer d'abord quelque chose de qualité et pas faire les choses n'importe comment, à vouloir faire plus gros, plus gros, plus gros et qu'au final, la qualité, elle soit pas là. Donc c'est pour ça qu'on essaie d'y aller doucement et de bien faire.
Après aussi, on est encore lycéen, on n'a pas 18 ans. Du coup, on voit pas pour l'instant l'intérêt d'augmenter notre son, sachant que aucun de nous n'a le permis, aucun de nous n'a de voiture. Donc se retrouver avec un son qui fera peut-être 10 kilos, mais ne pas pouvoir le déplacer et jamais l'utiliser finalement, c'est vraiment pas quelque chose d'utile. On préfère avoir un son, bien savoir le maîtriser, acquérir de l'expérience au fur et à mesure, et plus tard, peut-être, pourquoi pas, pouvoir l'agrandir pour pouvoir passer sur des événements plus grands et sonoriser des petits festivals, des événements, ou être même à plusieurs endroits à la fois s'il le faut.
Et peut-être même avec d'autres sons de système. On pourrait s'agrandir, enfin, pas s'agrandir, mais s'allier avec d'autres sons pour des soirées et puis avoir proposé plus de sons, ça ferait moins de boulot pour nous.
La sono, elle a quelle puissance?
Alors, pour l'instant, on en est à la moitié de notre projet, de ce qu'on avait prévu au départ. On a 1600 watts pour l'instant, et donc là, on compte finir notre projet de base avec dans les 3800 watts, un truc comme ça, on va dire 4 kilos.
Et l'objectif, c'est de finir notre projet d'ici fin mars, début avril, grand max.
Ça veut dire que vous pouvez accueillir combien de gens à vos concerts?
Alors ça, on sait pas vraiment, mais imagine-toi une petite enceinte que tu as chez toi, par exemple JBL ou quoi, ça pourrait faire dans les 10 watts. Et ça fait déjà un petit peu de son. Donc là, c'est des grosses enceintes quand même, et on peut accueillir pas mal de gens devant. Et pour l'instant, ce qu'on a, c'est un peu limité, mais on sait même pas ce que c'est notre puissance maximum parce qu'on l'a toujours pas fait pousser à fond. Mais on essaye, on va voir par exemple au psycho by dub jusqu'où ça peut monter en puissance et combien de personnes on peut accueillir devant.
Vous avez investi combien dans ce projet?
Dans les 1500 euros pour l'instant, et au total, on va être dans les 2500.
Est-ce que vous avez besoin d'aide ou vous vous débrouillez assez bien, vous trois?
On peut pas dire non à une aide financière parce qu'on n'a reçu aucun financement extérieur. On a tout financé de notre poche, ou presque. C'est-à-dire qu'on a fait, on a pu nous voir deux fois sur le marché, puis on a fait une vente de t-shirts qui a très bien marché d'ailleurs. Et sinon, on a vraiment sorti beaucoup d'argent et de temps de notre propre poche. Du coup, une aide extérieure qui nous permettrait de finir, ce serait vraiment super. Après, est-ce qu'on compte là-dessus? Pas vraiment, parce que il faut savoir que quand on fait des demandes de subvention, ça prend un certain temps, sachant que dans le DIWAD et son système, on n'est pas les premiers, on sera sûrement pas les derniers. Donc au fur et à mesure, ça devient de plus en plus difficile de se démarquer, de montrer que nous aussi, on a notre projet, nos idées, et d'arriver à être original pour convaincre le jury.
Et c'est quoi votre plan communication pour faire connaître le Sound System?
Eh ben, notre plan de communication, c'est déjà, on a une page Facebook et un compte Instagram, Wireless Sound System. Sinon, on a fait notre vente de t-shirts avec nos logos. Dans le lycée, on peut en voir passer quelques-uns, ce qui fait vraiment plaisir. Et sinon, après, c'est, oui, c'est voilà, les marchés, essayer de faire un maximum d'événements, comme le loto de l'école. Voilà, on va pas passer de la musique, on va pas passer du dub. Et ça permet, déjà, ça nous fait plaisir de passer notre ancienne école, mais ça permet de montrer qu'on existe, de montrer notre projet et d'avoir un peu de visibilité. Donc plus on fera d'événements, même si ce n'est pas des événements extraordinaires, si ça nous permet d'avoir une certaine visibilité auprès de personnes qui pourraient être intéressées, c'est le principal.
Et en plus de ça, le fait de participer à des événements assez différents comme le loto des écoles, comparé au Psycho by Dub, ça apporte une grande diversité du public.
Merci, on vous retrouve le 2 février. On peut avoir plus de précisions sur cet événement?
On sera le 2 février au théâtre désert. Donc un peu avant que la soirée commence, on pourra commencer à mettre du son vers 18h. Et on aura du coup aussi des t-shirts qui seront disponibles à la vente pour ceux que ça intéresse, qui voudraient soutenir le projet comme ils le peuvent.
Eh bien, merci à vous trois.
Merci à toi.
Merci.
Merci.
Vous pouvez retrouver cette interview sur www.rdwa.fr. Et il y aura aussi d'autres interviews de la cité scolaire. Au revoir à tous. Children of Jah Jah, the Gideon, step up on the fire, we never get born. Standing firm, cause we're Jidah and them. Look how we're standing in the lion's den. Jidah and the Gideon, Jidah control people, some Babylon is gonna hear them done. Rastaman, a lion, fire upon drum, blaze up the child upon the weapons and gun.
Gideon, Gideon, step up on the fire, we never get dragon and tell about people be free. Rest, I'll never die. Life is eternal, it's full of a sign.
Les infos humoristiques. Les infos humoristiques. La France connaît une révolution sans précédent avec les bonnets roses, signe d'une colère surgissante du peuple envers les riches patrons qui piquent le lait de chèvre à la crème de châtaigne de tout le monde. Depuis plusieurs semaines, ceux-ci bloquent les fermes et les laiteries pour protester contre cette pénurie. De nouveaux actes de civilité surgissent chaque jour et on rapporte hier un groupe de bonnets roses ayant aidé un fermier à produire du lait pour en rapporter une maigre tâche chez eux. Mais depuis cette épidémie de protestation, les magasins d'habits commencent à ronchonner de se faire voler de plus en plus de bonnets et veulent lancer eux aussi un mouvement, les Gilets jaunes. Le président Bolsonaro, Bolsonaro, arrivé à la tête du Brésil il y a quelques semaines, a d'ores et déjà présenté à la presse internationale ses premières mesures. Tout d'abord, il souhaite investir dans la construction de plus de bidonvilles pour toucher des aides de l'ONU plus importantes. Il espère pouvoir passer la majorité pénale à 46 ans et limiter le droit de vote aux militaires de 27 ans, de préférence qui aiment la glace à la fraise. Soutenu par les petites e-shops du quartier, où l'on trouve d'ailleurs les meilleures glaces à la fraise, il promet de limiter l'action des grands groupes industriels en leur imposant un quota de superficie pour leurs magasins, pour le moment imaginé autour des 10 mètres carrés, et en même temps de reverser les aides obtenues grâce au nouveau bidonville à la boulangerie de la place de l'empereur Bolsonaro, parce que ses croissants, bah franchement, ils déchirent. Interrogé sur le sérieux de ses promesses, il a nié toute manipulation politique dans un but personnel. Et pour finir ce flash, une info de la plus haute importance qui nous est transmise par un interne du lycée de Die. Il aurait mangé une tranche de saucisson aux alentours des 18h27, peu après le passage de son surveillant qui insistait pour se rendre au restaurant scolaire. Cet acte suit de près l'ingurgitation d'une brioche au chocolat survenue à 17h45 et 36 secondes, achetée l'après-midi même à l'échoppe de la place placée sous la vénérée grande enseigne I, les Noivés commerçants. Il est évident que des poursuites seront engagées contre ce forcené déjà surpris à plusieurs reprises en flagrant délit. Et tout de suite, c'est un métier au lycée. Pour cette première édition d'un métier au lycée sur Radio Diwa, nous allons à la rencontre de la façade de l'éducation, le professeur. Monsieur Mars Lesage, professeur de sciences économiques et sociales au lycée du Diwa, répond à nos questions. Alors, avant de le devenir, qu'est-ce que vous pensiez de ce métier ?
Oula, quelle question ! disons que c'est un petit peu... Ça peut paraître assez paradoxal dans le sens où je suis un enfant de professeur, je suis fils de prof en fait. Donc l'image que j'en avais, ça peut sembler bizarre à certains, mais c'est une image plutôt négative. Je voyais surtout mes parents qui passaient énormément de temps dans leur travail, avec une rémunération qui n'était pas forcément à la hauteur du temps consacré, et des parents qui m'ont toujours dit « ne fais jamais prof ». Donc l'image que j'en avais avant de commencer était plutôt négative, dans le sens où c'était un travail fatigant, il faut le dire, et pas forcément rémunéré, comme je l'ai dit, à la hauteur des... travail fourni, et surtout en termes de prestige et de considération. Je rappelle qu'en sociologie, dans le monde social, on a trois types de ressources. Donc c'est le moyen matériel, le prestige et le pouvoir. Un professeur, son pouvoir est assez faible. Son prestige, il va décroissant. Et sa rémunération stagne depuis les années 80. Donc si vous voulez, c'est pas franchement le métier qui a le plus progressé durant ces dernières années. En tout cas, dont le statut a le plus progressé. Donc plutôt négatif.
Et comment êtes-vous justement arrivé à cette profession, finalement ?
Oula ! Alors moi, j'ai un profil de professeur assez atypique. Bon, de moins en moins atypique, ceci dit, dans le sens où, de plus en plus souvent, l'éducation nationale a recours aux contractuels pour colmater les brèches, on va dire. Donc je suis contractuel. À la base, moi, je ne suis pas du tout professeur, comme j'ai dit. Je suis plutôt analyste financier et j'ai été embauché. J'ai dit clairement, je n'ai pas eu mon concours, j'ai juste été embauché par le lycée. Ça s'est fait, je veux dire, de manière complètement presque imprévue, j'ai envie de dire. J'ai vu une annonce sur internet et j'ai répondu et je suis devenu professeur comme ça.
Et ça signifie quoi être contractuel du coup vraiment ? Est-ce
qu'il y a des différences un peu plus flagrantes par rapport à ceux qui ont passé le concours, je sais pas comment on les appelle.
Bon, on va pas se mentir, hein. Être contractuel par rapport au certifié, donc. Être contractuel, c'est être un petit peu moins bien payé, c'est avoir un statut qui est précaire, hein, parce que les contrats dans l'éducation nationale, en tout cas en tant que professeur, ça se renouvelle tous les ans. Donc en fait, on a un contrat d'un an, après, au-delà d'un an, l'année scolaire est terminée, donc le contrat est terminé. Donc voilà, être moins bien payé, avoir un contrat précaire. Bah, en fait, être contractuel dans l'éducation nationale, c'est simplement être un précaire comme un autre. Après, il ne faut pas se mentir non plus, les contractuels comme moi, on a aussi des passerelles, donc des moyens de devenir, permanent. Ça s'appelle le concours, voilà, il faut travailler un peu, il faut le passer, et puis voilà.
Et donc vos amis devaient avoir leurs idées sur le métier avant que vous y arriviez, mais à votre avis, quelles sont celles que l'opinion publique a actuellement et quelles sont celles que vous voudriez entendre sur ce métier ?
Alors, bon, comme je disais, mes amis viennent d'un milieu assez particulier, ils sont tous essentiellement cadres, donc ils ont tous une vision assez, on va dire, cadre du privé de la fonction de professeur. Non, en réalité, ils ont un grand respect pour les professeurs, mais c'est vrai que les remarques qui viennent souvent, même pour rigoler, c'est « Ah, t'as beaucoup de vacances, t'es une feignasse », ce genre de réflexion-là. Bon, même si c'est pour rire, ça témoigne quand même d'un certain... une certaine réalité, en fait. Pas au sens où on est des feignants et on a beaucoup de vacances, dans le sens où c'est ce que je pense que les gens pensent de nous. Maintenant, il faut quand même nuancer ce que je vous dis. D'après la plupart des enquêtes d'opinion, les professeurs sont quand même plutôt bien vus par la société. Je crois qu'on est autour de 66% d'opinions positives, ce qui est pas mal quand même. 66% des Français considèrent que les professeurs sont des gens bien. Donc après, voilà, il y a ces réflexions qu'on peut entendre parfois, mais je pense dans l'ensemble que c'est des réflexions qui n'ont pas vraiment de fondement. Et même chez les gens eux-mêmes, même chez les gens en général, oui, effectivement, je pense qu'il y a une bonne image de l'enseignement. Enfin, j'espère. Les sondages le disent.
Et du coup, au quotidien, en quoi consiste vraiment ce métier ? Ça correspond aux rumeurs ou c'est plutôt différent ?
Aux rumeurs, c'est-à-dire ?
À ce qui circule, enfin, c'est les copies, les cours.
Ah bah essentiellement, oui, c'est sûr. Les copies et les cours à préparer, bon, c'est vrai que moi je suis plutôt... Enfin, je suis nouveau, donc des cours à préparer, j'en ai quand même pas mal. Après, pour les copies, ben, ça c'est l'autre prof, quoi, je veux dire. Et je rappelle aussi que en tant que professeur en lycée et en collège, on est cadre. Donc au final, notre travail, il ressemble un peu à un boulot de cadre, quoi. C'est-à-dire qu'on travaille à la fois sur notre boulot de travail, donc typiquement au lycée, mais on rapporte souvent aussi du travail à la maison, et du travail le week-end, et du travail pendant les vacances, etc., etc. Donc effectivement, tout ce qui est copie, il y a aussi toutes les démarches administratives qu'il faut assurer le bon déroulement. Bref, il y a pas mal de choses annexes en fait au simple cours. Donc, on a les copies à corriger, tout ce qui est administratif aussi à gérer. Ça demande du temps, c'est chronophage, c'est pas forcément la partie la plus séduisante du travail du métier, c'est certain, mais ça en fait partie. Donc le quotidien d'un prof, en fait, bah, si vous voulez, il se lève comme tout le monde, il va travailler comme tout le monde, et comme tous les cadres en réalité, il ramène du travail à la maison.
Et depuis que vous le pratiquez, quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez pu lui trouver ?
Les inconvénients ?
Et les avantages aussi.
Je préfère commencer par les inconvénients, puis on finira sur la bonne touche. Alors, les inconvénients, je dirais, là pour le coup, une cause et une colle. C'est un métier que j'aime beaucoup en fait, donc les inconvénients, j'en ai pas forcément en tête. Je dirais, si, allez, on ose le dire, la rémunération qui est le gros point noir du métier. On peut pas dire qu'on est très bien payé pour ce qu'on fait. Maintenant, il faut nuancer, ça reste quand même un métier intéressant. Et puis comme je dis, en fait, c'est un inconvénient, je veux dire, la rémunération, mais en fait, au fond, on s'en fiche parce qu'on ne fait pas ça pour ça en général. On fait ça, pas pour les vacances non plus d'ailleurs, comme certains peuvent le penser, mais on fait ça parce qu'on aime ça, en fait, tout simplement. Et gros avantage, je dirais, de ce métier, c'est surtout la liberté qu'on a. C'est-à-dire qu'on a un programme qu'on doit suivre, hein, le ministère a des programmes... Les élèves doivent avoir un certain bagage à la fin de l'année, mais on est assez libre, en fait, nous, de faire un peu ce qu'on veut. Mais on a le cadre du programme, en fait, mais dans ce cadre, on a une certaine liberté qu'on n'a pas dans les autres métiers. Moi, je sais que personnellement, j'ai eu pas mal de métiers de bureau avant d'être professeur, et j'ai trouvé c'était des professeurs, des métiers, on était très consultés, on était très surveillés, la hiérarchie était très importante, très intense, très très pesante même. Alors que là, en fait, pas du tout. C'est vrai que certains s'en plaignent justement de cette absence de hiérarchie, en tout cas de la hiérarchie qui ne soutient pas forcément. Mais c'est pas un mal non plus, dans le sens où, au final, on a quand même un certain degré de liberté qu'on n'a pas dans beaucoup de métiers. Donc je dirais que l'avantage principal de ce métier-là, voilà, c'est la liberté qu'on a dans les cours, dans la préparation des cours et dans la façon qu'on a de faire nos cours, dans la pédagogie tout simplement. Et pour les inconvénients, en fait, tiens, j'en vois pas tant que ça. En fait.
Donc vous parlez des programmes, de la liberté par rapport au programme, et en sciences économiques et sociales, de quoi il parle ce programme ?
Alors, le programme de sciences économiques et sociales est un programme très ambitieux. Très ambitieux parce qu'il veut, enfin en tout cas il essaie de répondre à une attente des Français. Je crois qu'on est à 60% des Français qui voudraient savoir, qui voudraient connaître mieux l'économie, donc c'est quand même une part importante. Et ce programme, en tout cas, enfin, cette discipline qui est enseignée au lycée, tente d'apporter des réponses, en tout cas, aux problématiques économiques, enfin, en tout cas, tente d'apporter voilà, des réponses et tente d'ouvrir sur un monde économique et social qui est à la fois très connu de chacun, parce qu'on est tous des acteurs économiques et tous des acteurs sociaux, mais en même temps, comme on est tous des acteurs de ce monde-là, on n'a pas forcément le recul pour comprendre ce monde. Et toute l'ambition, en fait, comme je vous dis, ouais, de la SES, c'est justement de prendre ce recul, d'analyser ces choses-là de manière objective, et essayer, voilà, de, comme je vous dis, d'apporter quelques éléments de réponse sur certaines questions d'actualité. Qu'est-ce que le PIB, qu'est-ce que la croissance, quels sont les impacts de la croissance sur l'environnement, ce genre de choses-là. On entend parler ça tout le temps, mais au final, ça ne parle pas vraiment. Donc on essaie d'apporter quelques réponses, d'apporter quelques outils théoriques, des outils statistiques, etc. Pour vous aider à comprendre le monde qui vous entoure et que vous êtes en train de faire d'ailleurs aussi.
Est-ce que c'est cette matière qui parle de politique plutôt ou c'en est une autre ?
Non, alors, quand vous parlez de politique, qu'est-ce que vous entendez par là ? La science politique, vous voulez dire ?
Science politique, bon, on peut dire géopolitique, mais du coup ça se relie plus à la géo, mais politique, politique quoi.
Là, non, en réalité, alors effectivement, mes collègues de sciences économiques sont aussi ceux qui s'occupent, hein, qui ont en charge d'assurer le cours sur la science politique. Mais ça, c'est une option en fait. La SES, on n'est pas censé faire de sciences politiques. On en fait quand même un petit peu parce qu'il y a toujours des différences, différents points de vue, si vous voulez, sur certains sujets en économie qui renvoient à des thématiques politiques beaucoup plus larges. Donc on en fait quand même, on explique par exemple tel parti est plutôt libéral, lui il est plutôt interventionniste, et ça se rattache à telle théorie, telle philosophie, ou telle philosophie et tel parti politique et tel parti politique. Mais on va plus loin que ça. La politique en elle-même, on n'analyse pas tant ça.
Vous pratiquez depuis combien de temps ? Enfin, vous exercez depuis combien de temps ?
C'est ma troisième année en tant que professeur au lycée du Diois.
Un dernier mot à dire autour de la profession ? Un aveu à vos élèves ?
Non, pas d'aveu. Vous savez, en fait, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes prof, je dirais que c'est aussi ça qui est marrant quand on est prof, c'est qu'on a un petit peu de pouvoir, mine de rien. Je dis qu'on n'en avait pas beaucoup, en fait, si on en a quand même, sur les élèves. Oui. Le poids qu'on a, le pouvoir qu'on a sur eux est assez conséquent. À partir du moment où vous êtes dans une situation de pouvoir, où vous avez du pouvoir, où vous devez exercer une autorité sur quelqu'un, il vaut mieux pas trop se révéler. Le pouvoir passe avant tout dans l'apparence. Donc si vous vous révélez trop, vous risquez malheureusement de montrer qui vous êtes vraiment, à savoir un être humain. Et l'être humain, ça reste fragile, donc il faut rester avec son masque tout le temps. Petit conseil que je vous donne, si jamais vous avez du pouvoir un jour.
Eh bien, merci, et puis ben bon cours.
Mais écoutez, merci, et puis ben, on se reverra en cours.
Enfant très actif, sa mère le laisse quelquefois accompagner son père lors de ses entraînements de football. Ce serait lors d'un de ses entraînements qu'il aurait acquis le surnom de Pelé. Le petit Edison, qui n'avait que 3 ans, s'amusait avec le gardien du Vasco de Gama FC, le club de son père. C'est alors que son père remarque qu'il crie « Pelé » en essayant de prononcer le nom du gardien, un certain Billet. Pelé deviendra Pelé, et le surnom de l'enfant, même si sa famille et ses proches continueront à l'appeler Edson. Repéré par Valdemar de Brito, entraîneur de l'équipe de jeunes de Bauru Athletic Club lors d'une sélection, Son talent pour le ballon rond le conduit à ne fréquenter que les stades. Il intègre à 13 ans l'équipe du Bauru AC, où il reste jusqu'en 1956. Deux ans plus tard, Valdemar de Brito quitte son poste d'entraîneur, mais propose aux parents de Pelé que celui-ci rejoigne le Santos FC, ce qu'ils acceptent. Pelé quitte sa famille en 1956 à l'âge de 15 ans pour s'installer donc à Santos et jouer au club du Santos FC en devenant professionnel. Il s'entraîne directement avec l'équipe professionnelle mais joue avec les juniors. Après les blessures d'un titulaire, il prend une place dans l'équipe type très rapidement, au début de l'année 1957. Auteur de bonnes prestations, il est convoqué en équipe du Brésil et joue lors de la Copa Roca. Trois jours plus tard, il est titularisé pour la première fois en équipe du Brésil et, grâce à un nouveau but, permet de battre l'Argentine. Cette convocation prématurée lui permet de croire en ses chances pour participer à la Coupe du Monde 1958, qui se déroule en Suède. Il termine meilleur buteur du championnat de l'État de Sao Paulo, qui lui permet d'être sélectionné dans l'équipe en partance pour la Suède. Âgé de 17 ans seulement, Pelé est appelé à jouer sa première Coupe du Monde. Blessé quelques jours avant le début de la compétition, il ne participe pas aux deux premiers matchs de la sélection. Au troisième match décisif contre l'URSS, Pelé fait ses grands débuts dans la compétition aux côtés de Garrincha, considéré comme le meilleur joueur de la sélection. Il devient alors le plus jeune participant au tournoi. Le Brésil s'impose et se qualifie pour les quarts de finale. À partir de ce moment-là, Pelé est titularisé à toutes les rencontres. Tout d'abord en quart de finale, 1-0, but de Pelé. En demi-finale, 5-2, triplé de Pelé. Puis en finale, contre le pays des hôtes, la Suède, où le Brésil devient pour la première fois champion du monde en les battant 5-2, doublé de Pelé. Pelé a inscrit 6 buts en l'espace de 3 rencontres au cours de cette compétition, où seul Juste Fontaine fait mieux et devient à 17 ans le plus jeune joueur de ce trophée. Après cette victoire, Pelé et ses coéquipiers connaissent une véritable médiatisation à leur retour au pays, couverture de magazines et entretiens notamment. Il s'agit du premier titre du Brésil qui intervient 8 ans après la véritable désillusion en 1950, où le Brésil avait perdu la finale chez lui au Maracana. Malgré ce titre à 17 ans, Pelé poursuit sa carrière à Santos sans que celui-ci soit le joueur le mieux payé, en raison de la superficie du Brésil et la difficulté de mettre en place un championnat national. Santos FC dispute le championnat de Sao Paulo, qui est, avec le championnat de Rio de Janeiro, l'un des plus difficiles championnats régionaux. Ensuite, les meilleurs clubs de ces deux championnats disputent le tournoi Rio-Sao Paulo, qui désigne alors le champion du Brésil. Santos FC remporte le titre du championnat pauliste, où Pelé termine meilleur buteur. Puis, pour la première fois de l'histoire du club, le tournoi Rio-Sao Paulo, en 1959, puis de nouveau titre du championnat de Sao Paulo, 1960-1961. Par ailleurs, le club effectuait de nombreuses tournées à travers le monde, notamment en Europe, pour y rencontrer les meilleurs clubs européens qui n'hésitaient pas à proposer des offres pour attirer Pelé. Cependant, le concret brésilien décide de mettre un terme à ses spéculations en le déclarant trésor national non exportable. Titulaire indiscutable en équipe du Brésil, Pelé participe en 1962 à la seconde Coupe du Monde qui se déroule au Chili. Le 2 juin, ils affrontent la Tchécoslovaquie. Pelé se blesse tout seul musculairement à la 25e minute, mais reste sur le terrain jusqu'à l'issue du match, car les remplacements ne sont pas autorisés. Le match se termine sur un score nul et vierge de 0-0. Pelé, qui était resté sur le terrain, rend hommage aux défenseurs tchèques pour leur fair play en ne cherchant pas à les blesser plus sérieusement. Malgré cela, Pelé ne se remet pas de sa blessure et ne prend part à aucun autre match dans le tournoi. Mais la sélection auriverde, menée à nouveau par un Garrincha insaisissable et irréprochable, triomphe une seconde fois. De retour au Brésil, il se rétablit et rejoint son club qui s'est qualifié pour la finale de la Copa Libertadores. Il ne joue que le troisième match décisif qui voit la victoire du Santos FC sur le score de 3-0, doublé de Pelé. Le titre permet au club brésilien de rencontrer le champion d'Europe en coupe intercontinentale. Au match aller, Santos FC s'impose 3-2, doublé de Pelé au Maracana. Au match retour à Lisbonne, Santos mène 5-0, triplé de Pelé, et remporte son premier titre intercontinental pour un score final 5-2. L'année suivante, Santos parvient une nouvelle fois en finale de la Copa Libertadores et remporte pour la deuxième fois le titre après une victoire au Maracana. À l'aller 3-2, puis une autre retour à la Bombonera 2-1, dont le but victorieux inscrit par Pelé à la 82e minute. Ce succès permet donc au Santos de disputer également la Coupe Intercontinentale au match aller. Au match aller, Milan gagne 4-2 à San Siro, malgré le doublé de Pelé. Mais Santos remporte le match retour 4-2. Blessé, Pelé ne joue pas. C'est donc au troisième match décisif que le titre est décerné. Titre gagné par Santos pour la deuxième fois grâce à une victoire 1-0. Cependant, cette célébrité de Pelé, âgée seulement de 25 ans en 1966, ne lui attire pas seulement les valeurs du public et des médias. Rapidement, l'attaquant de Santos devient la cible de tous les défenseurs du monde. Une cible très exposée, puisqu'il dispose un nombre incroyable de matchs, pas toujours essentiels pour construire sa légende. Son club souhaitant rentabiliser le phénomène et justifier son salaire, multiplie ses apparitions. Pelé joue 116 matchs. Il est souvent blessé, mais récupère rapidement. Néanmoins, les blessures, qu'elles soient consécutives à sa surexposition ou aux agressions, finissent par lui poser des problèmes. De plus, le Brésil, fort de ses deux titres, pense que le titre de la Coupe du Monde 1966 a déjà été Lors de cette composition organisée en Angleterre, ce sont les agressions adverses qui vont finalement avoir raison du joueur. Contre la Bulgarie, il est agressé par Dobromir Zaïchev sans que l'arbitre ne le sanctionne. Défenseur d'une équipe battue par 2-0, dont un but de Pelé. Au match suivant, les Brésiliens décident de préserver Pelé et le laissent sur le banc contre la Hongrie qui s'impose 3-1. Au pied du mur, Pelé est finalement titularisé au troisième match, décisif contre le Portugal. Après avoir subi bon nombre d'agressions, Pelé et le Brésil perdent. Le Portugal s'impose 3-1 et élimine le Brésil. En 1968, le club réalise le doublé championnat police contre Coupe du Brésil. En même temps, Pelé participe aux nombreuses tournées du club et à la sélection brésilienne. États-Unis, Afrique, Europe. En automne 1969, tous les médias sportifs brésiliens attendent le 1000e but de sa carrière, match amicaux inclus. Alors que plus l'événement approche, plus Pelé rencontre des problèmes d'efficacité. Ajouté à cela, aucune défense adverse ne souhaite être retenue dans l'histoire comme étant celle ayant encaissé ce fameux but. C'est finalement le 19 novembre 1969 au Maracana qu'il inscrit face au Vasco de Gama son 1000e but. Il effectue alors un tour d'honneur. Ce match est interrompu 20 minutes avant de reprendre. En cette année 1970, se profile la Coupe du Monde au Mexique. Pelé n'était pas revenu en sélection qu'à partir de 1968, après une pause de 2 ans, née de la déception de l'édition 1966. Au premier match contre la Tchécoslovaquie, alors que le score est de 1-1, Pelé décide de tenter un lob de 50 mètres sur le gardien Ivo Victor. Il manque le 4 pour quelques centimètres. Cependant, il se reprend plus tard en marquant le deuxième but de son équipe, match que le Brésil gagne finalement 4-1. Au match suivant, ils sont opposés au tenant du titre, l'Angleterre. Pelé met en lumière le gardien adverse, qui repousse son tir, une tête piquée à bout portant, de façon parfaite. Cet arrêt est considéré alors comme l'un des plus beaux arrêts de gardien de l'histoire. Pelé dira d'ailleurs après le match « J'ai marqué un but, mais Banks l'a arrêté ». Cependant, malgré les exploits de Banks, le Brésil s'impose 1-0 au troisième match. Pelé inscrit un doublé contre la Roumanie pour une victoire difficile 3-2. Qualifié pour les quarts de finale, le Brésil affronte le Pérou qui bat 4-2 sans but de Pelé. En demi-finale, c'est l'Uruguay qui se profile. Pour Pelé, il s'agit de l'occasion d'effacer le mauvais souvenir de 1950 pour toute une nation menée 1-0 le Brésil s'impose finalement 3-1. Durant ce match, Pelé effectue un grand pont sans toucher la balle devant le gardien de la Céleste, Mazurkiewicz. Mais il ne réussit pas cependant à cadrer sa frappe après cet exploit. Lors de ce match, Pelé ouvre le score d'un but au second poteau sur un centre de Rivellino, puis offre par une passe aveugle le quatrième but à Carlos Alberto. Il remporte ainsi un troisième titre sur un score final de 4-1, permettant au Brésil de reconquérir le trophée Jules Rimet. Le défenseur italien Tarcisio Bernich, adversaire de Pelé lors de la finale, déclare avant le match « Je me disais, les tâcheurs en ayant os comme moi, mais ensuite j'ai compris que je m'étais trompé. » Un an après ce titre, Pelé prend sa retraite internationale lors d'un match entre la Seleção et la Yougoslavie au Maracana, le 18 juillet 1971. Score final 2-2. Sous l'ovation du public, qui demande à Pelé de rester en vain. Il poursuit cependant sa carrière en club, toujours au Santos FC, à travers les différentes compétitions et les tournées amicales dans le monde. C'est lors d'une de ses tournées en Amérique du Nord que Pelé reçoit des offres des États-Unis dès 1971, mais les décline. En 1973, il signe un contrat avec Pepsi Cola et à son projet d'atelier de football pour enfants. En club, il continue à réaliser de bonnes performances, comme le titre du championnat pauliste, remporté. Ce qui incite de nombreuses personnes, dont le pouvoir politique, à réclamer le retour de Pelé en sélection pour la Coupe du Monde 1974, mais celui-ci reste sur sa position de 1971. Fin 1974, à 34 ans, il décide alors de reprendre sa retraite définitive contre Ponte Preta. Après 18 années passées au Santos FC, mais quelques mois après son retrait du monde de football, Pelé s'aperçoit que ses affaires en dehors du football ne se portent pas bien et que des dettes se sont accumulées. Ainsi qu'après avoir reconsidéré les offres des clubs européens, où le rythme des matchs est aussi élevé qu'en Amérique du Sud, il décide de signer pour le Cosmos de New York et le championnat nord-américain, la NASL. Pelé signe son nouveau contrat le 11 juin 1975 et s'installe à New York. Il participe alors à l'essor du football aux États-Unis, dans un pays où ce sport reste confidentiel. Lors de sa première saison, il ne permet pas à son club de se qualifier pour les séries éliminatoires, play-offs. Mais il s'agit sur le plan économique d'un véritable succès, avec des stades remplis et où de nombreuses personnalités assistaient aux matchs de soccer. L'année suivante, en 1976, le Cosmos recrute alors de nouveaux joueurs professionnels, dont l'international italien Giorgio Quinaglia. L'équipe joue mieux et se qualifie pour les séries éliminatoires, mais est battue en quart de finale par les Wolves de Tampa Bay 3-1. Il décide alors de prolonger sa carrière d'une année. Les matchs à domicile se déroulent depuis peu au Giants Stadium et de nouveau un effort avait été fait sur le recrutement des joueurs. Franz Beckenbauer, Carlos Alberto ou Jomo Sono. L'équipe parvient en Soccer Bowl, finale du championnat, et Pelé remporte son premier titre de la NASL contre les Seattle Sounders. Le 27 août 1977. Après ce titre, Pelé décide d'annoncer sa retraite définitive du football. Pour cela, il organise un match d'adieu entre les Cosmos et le Santos FC le 1er octobre 1977 au Giants Stadium devant environ 75 000 spectateurs. Il revêt les couleurs du Cosmos en première mi-temps, puis celles du Santos FC en deuxième période. À la fin du match, il est soulevé par ses coéquipiers et effectue un tour d'honneur. Pelé n'arrivant pas à retenir ses larmes, il est âgé alors de 37 ans et joue par la suite d'autres matchs mais seulement amicaux à l'occasion d'autres jubilés ou de rencontres FIFA. En 1977, Il arrête définitivement le football. JB Pinheiro, ambassadeur du Brésil à l'ONU, déclare que Pelé a joué 22 ans au football et durant cette période, il a fait plus pour l'amitié et la fraternité que n'importe quel autre ambassadeur. Le 1er octobre de cette même année, les Nations Unies lui décernent le titre de citoyen du monde. Il décide alors de s'engager dans des actions liées au football ou humanitaire. Il travaille tout d'abord à la commission du fair play. À la FIFA, puis devient ambassadeur de bonne volonté pour l'UNICEF, notamment dans l'éducation et la santé des enfants, où il n'hésite pas à participer à des manifestations de collègues de... Il a appuyé le Téléthon télévisé pour les enfants en difficulté, le gala Coute Henriette Oven, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, organise tous les ans afin de collecter des fonds pour l'éducation des enfants qui sont dans le besoin. Il utilise sa renommée pour promouvoir les activités de l'organisation. Il a participé au Parti du Cœur de Mille, qui s'est tenu à Rome, en Italie, pour appuyer le processus de paix israélo-palestinien, en montrant une nouvelle fois de plus son engagement et pour tenter d'unir les parties ennemies grâce au langage du football. Ses engagements humanitaires sont centrés sur l'aide aux enfants en difficulté. Pelé fait aussi campagne contre les drogues et promeut le sport comme un moyen d'expression sociale. Après la dictature dans son pays, de nombreux gouvernements souhaitent que Pelé prenne en main le ministère des Sports au Brésil. Après deux refus à Tancredo Neves en 1985, puis à José Sarney en 1989, Pelé accepte le poste proposé par Fernando Henrique Cardoso s'y élevé. Il décide de refondre structurellement l'organisation du football au Brésil. Il se heurte cependant à certains présidents de clubs car il souhaite que les clubs publient les bilans annuels. Il se heurte également à la Fédération brésilienne de football dont João Avenlange dans sa tentative de doter le championnat du Brésil d'une ligue indépendante sur l'exemple du championnat d'Angleterre. Finalement, en fin d'exercice en 1998, il parvient à faire aboutir son projet de loi appelé la loi Pelé, qui est une adaptation à l'arrêt Bosman en Europe pour permettre aux footballeurs de s'engager où ils le désirent. Pelé cumule des records à peine imaginables. En 1969, il avait inscrit son 1000e but dans un délire indescriptible au Maracana. 6 fois, il a marqué 5 buts dans le même match. 30 fois 4 buts et 92 fois 3 buts. Contre Botafogo, en 1964, il inscrit même 8 buts. Au total, 1281 buts en 1363 matchs et 92 sélections internationales. Pelé figure parmi les seuls joueurs ayant à la fois remporté une Coupe du Monde et étant détenteur du record de buts avec leur équipe nationale, au même titre que Miroslav Klose, 71 buts, David Villa, 59 buts et Thierry Henry, 51 buts. Le 21 février 1966, Pelé se marie avec Rosemary Dos Reis Cholbi. Il a deux filles, Kelly Christina, née le 13 janvier 1967, et Jennifer, née en 1978, ainsi qu'un fils, Edinho, né le 27 août 1970. Le couple divorce en 1982. En avril 1994, Pelé épouse la psychologue et chanteuse de gospel Assyria, Lemos Sexas, qui a donné naissance le 28 septembre 1996 à des jumeaux Joshua et Céleste, qui se sont séparés. Pelé a eu au moins deux enfants avec d'anciennes compagnes. Sandra Macedo est la fille d'une femme de chambre, Anisia Machado. Elle est née en 1964. Elle s'est battue des années pour être reconnue par Pelé, qui a refusé de se soumettre à des tests ADN. Même si elle a été reconnue par les tribunaux comme sa fille, Pelé n'a jamais reconnu sa fille aînée, mais après son décès d'un cancer en 2006. Pelé a eu une autre fille, Flavia Kurtz, dans une affaire extra-conjugale en 1968 avec une journaliste appelée Lenita Kurtz. Il a reconnu Flavia comme sa fille. En 1958, il marque 2 buts en finale de la Coupe du Monde contre la Suède. L'un sur lequel il effectue un coup de sombrero sur le dernier défenseur avant de reprendre de voler l'autre sur une tête amortie qui tombe dans la lucarne du gardien suédois. Sige Parling, défenseur scandinave, confiera plus tard « Après le 5e but, j'avais envie de l'applaudir. » J'ai oublié de vous dire, d'ailleurs, quand j'ai commencé à vous raconter des anecdotes, en fait, c'est les plus belles choses qu'il a fait dans sa carrière de footballeur. Parce que là, on arrive vers la fin de cette chronique. Donc, je vous relis celle-là parce que vous n'avez pas dû écouter en vous disant que j'avais fait... Enfin, que je m'étais trompée. En 1958, il marque 2 buts en finale de la Coupe du Monde contre la Suède. L'un sur lequel il effectue un coup du sombrero sur le dernier défenseur avant de reprendre de voler. L'autre sur une terre amortie qui tombe dans la lucarne du gardien suédois. Sige Parling, l'entraîneur défenseur scandinave, confiera plus tard. Après le 5e but, j'avais envie de l'applaudir. Le 5 mars 1961, il marque le plus beau but de l'histoire du Maracana, selon l'inscription d'une plaque commémorative au pied de la tribune d'honneur du stade. Lors d'un match entre Fluminense et Santos, et devant 101 000 spectateurs, Pelé remonte seul le ballon sur 70 mètres et élimine 7 joueurs. Il marquera le but en prenant le gardien de Fluminense à contre-pied avec une phrase « liftée ». Même les spectateurs de Fluminense, battus 3-1, viendront embrasser Pelé à la fin du match. En 1970, il marque en finale à Mexico le 100e but du Brésil en Coupe du Monde. Une tête piquée, reprise très haut. J'ai ressenti quelque chose de spécial après ce but, parce que j'ai marqué de la tête. Mon père, qui était joueur lui aussi, a marqué une fois 5 buts de la tête, même de la tête dans le même match. C'est un record que je n'ai jamais pu battre, expliqua-t-il plus tard. Ce même jour, il effectua une passe aveugle mémorable dans le dos de la défense italienne pour le compte de son capitaine Carlos Alberto. Lors de cette même compétition, 2 actions de Pelé vont rester dans les mémoires. Même si elles ne donnent pas but, il tente un lob de 50 mètres au-dessus du gardien tchécoslovaque Ivo Victor. La balle passe à quelques centimètres au-dessus du poteau. Il effectue un grand pont sans toucher le ballon sur le gardien uruguayen, Mazurkiev en demi-finale, mais une fois passé derrière le gardien, il ne parvient pas à cadrer sa frappe. Pelé laisse l'image d'un joueur complet aux qualités techniques et physiques hors normes, rapide, doué d'une incroyable détente verticale, comme sur le but inscrit de la tête en finale de la Coupe du Monde 1970. Le Brésilien jouissait d'une aisance technique sur le terrain qui le faisait passer pour le meilleur joueur de son époque. Il était capable de réaliser les gestes les plus techniques avec une très grande efficacité. Il était aussi capable d'en réaliser beaucoup et régulièrement. En 1958, comme en 1970, il tenta et réussit des gestes d'anthologie. Néanmoins, si Pelé est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, c'est surtout grâce à son impact sur le football, toute époque confondue, avec des performances et de nombreux records restés inégalés jusqu'à ce jour. De ses débuts professionnels à 16 ans à sa retraite internationale, Pelé a pratiquement éclipsé tous les autres joueurs de son époque, même au niveau de la précocité. Plus jeune vainqueur en Coupe du Monde gagné à 17 ans et plus jeune buteur de l'histoire de cette compétition. Il est aussi à ce jour le seul joueur à avoir gagné 3 Coupes du Monde, 1958, 1962 et 1970. Blessé lors du match et de premier tour contre l'Espagne en 1962, Pelé ne dispute toutefois pas les 3 matchs à élimination directe, quart de finale, demi-finale et finale lors de l'édition chilienne. Je vais vous lire maintenant un commentaire d'un des joueurs qui est considéré comme l'un des meilleurs aussi au monde, avec des joueurs comme Maradona, Zidane. C'est Johan Cruyff, qui était moins connu que cela, en tout cas en France, c'est un joueur hollandais, très bon, qui est passé par le Barça, qui a dit lui-même « Pelé a dépassé les limites de la logique ». Très beau compliment pour Pelé. Je voulais vous... c'est la fin de cette chronique. Je voulais tout de même vous recommander le film Pelé pour savoir plus de choses sur son enfance jusqu'à sa première Coupe du Monde gagnée. Et voilà, au revoir pour la prochaine chronique.